Alors que ce soir, nous débutons une série sur l'Apocalypse et vous comprenez qu'on va prendre notre temps dans le sens où on veut y aller en profondeur. Hein. Comme on l'avait fait il y a quelques années, si vous vous souvenez, on avait fait pareil avec le livre des Actes des Apôtres. Et on était parti du principe que quand on va vite, on ne voit pas tous les détails. Et vous savez, des fois, quand on est dans un trajet, si vous êtes dans un avion là, et puis vous voyez en bas, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous êtes en voiture, puis ça va vite, vous voyez pas tout. Mais quand vous êtes en vélo, vous voyez un peu plus les détails. Puis quand vous êtes à pied, vous voyez encore mieux ce qui se passe autour de vous. Et c'est un peu ce qu'on veut faire en lisant l'Apocalypse tranquillement. Nous voulons regarder le texte en détail pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Trop de gens parlent de l'Apocalypse sans l'avoir jamais lu ou parlent de l'Apocalypse sans vraiment savoir ce qu'il y a dans ce texte-là. Parce que le mot Apocalypse est devenu un mot qui fait peur. Et on a tendance à parler de temps apocalyptique et de parler de l'Apocalypse comme étant un synonyme de fin du monde, non? Et quand on dit « Waouh, c'est l'Apocalypse !» Ça veut dire quoi, c'est l'Apocalypse? « Ah, c'était apocalyptique !» Et donc c'est devenu un adjectif, c'est devenu un nom qui est synonyme de catastrophe, de guerre, de tribulation, de toutes sortes de choses comme ça, alors que ça ne veut pas dire ça du tout au départ. Et pour ceux qui parlent anglais, vous allez comprendre, comment on dit apocalypse en anglais? Révélation. Et révélation, ça fait moins peur qu'apocalypse. Hein. Si on dit c'est la révélation ou si on dit c'est l'apocalypse, ça ne fait pas le même effet. Et pourtant, le mot grec ici, apocalypsis, ça veut dire littéralement soulever le voile. Et c'est ce qu'on a dans le mot révélation. On a le mot voile ici. Et révéler, c'est soulever le voile, c'est enlever le voile. Il y a un voile qui nous empêchait de voir de l'autre côté. Ça ressemble un petit peu comme au voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et l'Apocalypse, c'est cette révélation où on soulève le voile, où on voit de l'autre côté du voile. Et il ne s'agit pas ici de connotations négatives, il s'agit simplement de ce que Jean a vu lorsque le voile a été soulevé. Et ce voile a été soulevé, et si on regarde Apocalypse chapitre 1, verset 1, ça commence donc avec ces mots, Apocalypsis, Jésus Christou, Apocalypse de Jésus Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ce livre est donc un livre de révélation, un livre où on soulève le voile, un livre où le Seigneur lui-même, puisque c'est la révélation de Jésus-Christ, un livre où le Seigneur lui-même, dévoile, puisque c'est le mot ici, révéler, dévoiler, c'est synonyme ici. Donc, dévoile les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, Jean ici reçoit une révélation, reçoit un message qui est fait connaître par Jésus pour les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 2, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Et Jean, ici, dans ce livre, écrit tout ce qu'il a vu. On pourrait presque dire aussi tout ce que le Seigneur lui a montré, parce qu'il a vu ce que le Seigneur a bien voulu lui montrer. Il n'a pas vu ce qu'il voulait voir. Il a vu ce qu'on lui a montré. Et des fois, certains, aujourd'hui encore, lisent l'Apocalypse pour voir ce qu'ils veulent voir, et non pas ce que le Seigneur veut leur montrer. Et vous comprenez que ce n'est plus la même approche. On ne peut pas lire l'Apocalypse pour dire « je veux comprendre ce qui va arriver avec mes actions en bourse, si ça va monter ou descendre ». Ce n'est pas une boule de cristal qui va vous montrer ce que vous avez envie de voir, mais c'est une révélation qui va vous montrer ce que le Seigneur veut vous montrer. Et c'est ce qui se passe ici dans cette révélation, dans ce dévoilement de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs, et c'est lui qui choisit ce qu'il veut montrer. Mais aujourd'hui, on a tendance à vouloir renverser un petit peu le sens des choses, et au lieu de voir ce que le Seigneur veut nous montrer, et d'être simplement un peu comme un spectateur et dire « Seigneur, montre-moi ou parle ton serviteur, écoute », on est plutôt du genre à vouloir poser toutes sortes de questions en disant « Et qu'est-ce qui va se passer ? Et telle année ? Et ça ? Et lui ? Et puis qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Et puis qu'est-ce qui se passe à Bagdad ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Et qu'est-ce qui se passe là ?» Et plutôt que d'être là en écoutant ce que le Seigneur a à nous dire, on pose toutes sortes de questions et on veut qu'il nous montre ce qu'on a envie de voir, et non pas ce que lui veut nous montrer. Et c'est quelque chose qui est important dans la posture lorsqu'on lit l'Apocalypse. Et peut-être que le verset 3 va vous surprendre, parce qu'il est dit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et c'est justement le contraire de ce que fait la société aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on lit l'Apocalypse, on parle de malheur. Alors qu'ici, dès le départ, et c'est le message ici de cette révélation de Jésus-Christ, c'est « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles ». Le but, l'effet, l'impact de cette révélation, de cet Apocalypse, de ces paroles, ça nous rend heureux. Et quand on lit l'Apocalypse, ça ne doit pas être déprimant, ça ne doit pas être décourageant, ça ne doit pas être frustrant, mais littéralement ici, heureux celui qui lit. Et quand on lit l'Apocalypse, on dit, waouh, ça me remplit de joie. C'est ce qui se passe quand vous lisez l'Apocalypse? Ça devrait marcher comme ça. Vous dites, mais pourquoi ça devrait nous remplir de joie? Ben déjà, tout simplement, pour la bonne et simple raison qu'on est du côté de ceux qui gagnent à la fin. Rien que ça, ça devrait nous remplir de joie. Notre adversaire, le diable, sera lié et jeté dans un étang de feu. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle, non? Et l'Apocalypse, ce n'est pas le message qu'on veut en faire aujourd'hui, comme un message de malheur, un message de peur, un message de terreur, un message d'angoisse, un message pour faire, pour terroriser. Ce n'est pas ça l'Apocalypse. L'Apocalypse est un message qui rend heureux. C'est un message qui rend heureux celui qui lit l'Apocalypse. Et je souhaite que vous qui allez lire l'Apocalypse durant les semaines à venir, aujourd'hui et dans les semaines à venir, vous puissiez vous rendre compte eh bien, de tout le bonheur, de toute la joie qu'il y a dans ce livre-là. Ce n'est pas un livre de tristesse, c'est un livre de joie. Ce n'est pas un livre de malheur, c'est un livre de bonheur. Vous allez dire, je ne suis pas trop sûr sur ce point-là. Mais en tout cas, dès le départ, les intentions sont claires. Le but de ce livre, ce n'est pas de déprimer, de décourager, de faire peur, de terroriser. Nous ne sommes pas appelés à être des prophètes de malheur. Je me souviens dans Tintin, et je ne sais plus comment le titre de l'épisode, mais il y a un épisode de Tintin où il y a un prophète de malheur qui annonce des temps apocalyptiques et on a tendance des fois à caricaturer, à quelque chose comme ça. Et puis du coup, à venir en disant, les chrétiens, ils viennent avec leur Bible en disant, attention à l'Apocalypse, c'est la fin des temps, je vous l'avais dit, ça va être des temps terribles. Je veux dire, ça ressemble des fois à ce que disent les Québécois quand il y a des immigrants qui arrivent d'Afrique. L'hiver arrive, tu vas savoir ce que c'est que le froid et la tempête de neige. Ça fait plus peur qu'autre chose. Hein. Mais il y en a qui ont l'impression que l'Apocalypse c'est ça, que c'est un livre qui nous annonce du malheur, qui nous annonce des catastrophes, qui nous annonce des drames, alors que dès le départ, c'est dit, c'est un livre qui nous annonce des bonnes choses. Et on a tendance des fois, oui, il y a des choses terribles dans l'Apocalypse, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Et il y a un triomphe, et il y a les noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Et puis, il y, y a des temps de triomphe et de gloire et des moments solennels où le voile est levé sur le trône de Dieu, où on voit cette louange qui prend place devant le trône de Dieu, et ça devrait nous amener plus à un effet de « waouh, c'est beau, c'est grand, c'est formidable », plutôt que de dire « ça fait peur ». Parce qu'on lit avec nos lunettes ou on lit que ce qu'on a envie de lire, et des fois il y en a qui prennent juste une phrase, juste un mot, et qui oublie de lire tout le livre. Mais c'est nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le temps de lire le livre en entier et de comprendre qu'il y a un bonheur, heureux, celui qui lit et celui qui entend. Et dans le « entendre » ici, il y a « comprendre » aussi, celui qui entend, qui comprend les paroles de la prophétie, et pas seulement qui les entend, pas seulement qui les comprend, mais qui les garde, qui garde les choses qui y sont écrites. Et s'il y a un avertissement dans l'Apocalypse, et il y en a quelques-uns, eh bien qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais si on est averti, c'est justement pour pas que ça nous arrive. Si on nous avertit qu'il y a un virage dangereux, c'est pour qu'on ralentisse et qu'on se prenne pas, qu'on n'aille pas dans le champ quand il y a un virage dangereux, non? Vous, quand vous voyez un panneau, attention, ralentissez, virage dangereux, vous vous accélérez pas. Non, il n'y a que les casse-cou qui vont accélérer là. Mais la Bible et l'Apocalypse, si l'Apocalypse contient des avertissements, et il y en a, le but, ce n'est pas le malheur, mais c'est justement le bonheur qu'on échappe aux temps qui sont proches et qui peuvent être dangereux et en difficulté. Et dès le départ, alors qu'il y a eu cette introduction qui nous présente en fait le but de l'Apocalypse en disant que c'est une révélation, c'est un voile qui est levé et c'est un message de Jésus-Christ envoyé par l'ange. Donc on comprend qu'il y a un messager, un ange qui allait parler, qui allait communiquer ce message à Jean. Jean, c'est l'apôtre Jean, hein, celui qui faisait partie des 12, celui qui a écrit l'Évangile, celui qui a écrit trois épîtres. Et l'Apocalypse, c'est même au niveau de l'écriture, c'est le livre qui a été écrit le plus tard, dans les années 90. Jean est déjà vieux. Jean, c'était le plus jeune de la bande. Hein, quand les 12 étaient là autour de Jésus, Jean, c'était le plus jeune. Mais là, maintenant, Jean est dans ses vieilles années et il est exilé, il est martyr quelque part et il doit être exilé ou prisonnier d'une certaine manière sur une île, l'île de Patmos. Et à ce moment-là, quand il est là dans sa vieillesse, il y a cette révélation, mais qui n'est pas seulement pour Jean, parce que c'est un message qu'il doit communiquer. Et on le lit à partir du verset 4, on voit que ce message est communiqué à sept églises. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Donc, le message est envoyé par un messager à Jean, et maintenant c'est Jean à son tour qui va communiquer ce message à sept églises qui sont en Asie. Et on a ici la structure d'une lettre, c'est vraiment une épître, on a l'impression d'être dans une épître de l'apôtre Paul par exemple, avec une introduction, une adresse, c'est vraiment la structure d'une lettre, comme on avait à cette époque-là. On commence avec des salutations, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Et Jean, quand il écrit ici, on voit que dès le départ, dans son adresse, dans son introduction, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Il l'écrit non pas pour amener de la terreur, de la frayeur et de l'angoisse, mais la paix. Et contrairement aux idées reçues, l'Apocalypse donne plus de paix qu'autre chose. Et si, en lisant l'Apocalypse, ça ne remplit pas votre cœur de paix, c'est peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose. Jean, ici, lorsqu'il écrit, il dit aux sept églises, ce que je suis en train de vous écrire, c'est pour vous communiquer la grâce et la paix. Et en lisant l'Apocalypse, ça doit communiquer aujourd'hui encore la grâce et la paix. Mais quelqu'un qui lit l'Apocalypse, sans être connecté avec celui qui était, qui est et qui vient, si quelqu'un lit l'Apocalypse sans avoir de relation avec Jésus et sans connaître ce Dieu vivant et vrai, alors lui, il va lire que certains éléments terrifiants, certaines images ou métaphores qu'il ne va pas comprendre, et ça va devenir pour lui un livre terrible. Mais lorsqu'on comprend que c'est un message de Jésus-Christ et que qui reprend donc, il est, on reprend ici le nom que Dieu lui-même a donné à Moïse, quand Moïse a dit, mais si on demande ton nom, quel est-il? Il dit, je suis celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Et on a exactement la même terminologie ici avec celui qui est, qui était et qui vient. Et le qui vient ici est plus un message de paix, de réconfort, d'espoir que de terreur. Et c'est d'ailleurs la dernière phrase, une des dernières phrases de l'Apocalypse, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et nous attendons celui qui vient. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du retour du Seigneur, lorsqu'on parle du celui qui vient, c'est pas, on n'en parle pas comme étant un temps d'angoisse en disant « J'ai peur que Jésus revienne ». Et j'ai hâte que Jésus revienne. J'ai hâte qu'il revienne et d'être, que l'Église soit enlevée et qu'on soit dans sa présence, en reprenant un petit peu les textes de l'apôtre Paul ici. Le retour de Jésus, c'est pas, ça annonce pas des temps de malheur, mais de bonheur. Et on a hâte, pas vous? Non? Préférez rester ici? Ou vous dites, viens Seigneur, viens. Maranatha, ça veut dire ça, viens. Et qu'on appelle ce retour du Seigneur. Et ici, on voit que Jean donc parle avec des termes qui correspondent à la révélation qu'on avait déjà dans les Écritures, mais qu'il y a une dimension nouvelle quand il dit « de la part des sept esprits qui sont devant son trône ». Et là, on a comme un petit goût du mystère en disant « mais qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ?» Et c'est en lisant un peu plus tard dans l'Apocalypse qu'on verra qu'il est question de cet esprit ici. Donc, on voit que Jean nous met en appétit, quelque chose comme ça, mais l'eau à la bouche en disant la révélation ici, c'est, ça vient du trône de Dieu. Et qu'il a vu des choses que personne n'avait vues encore. Et il fait référence ici à cet esprit qui sont devant son trône. On aura l'occasion d'y revenir quand Jean en parle un peu plus tard. Et il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, comprenez premier des morts, le premier ressuscité, et par sa résurrection, nous aussi nous avons la résurrection, c'est pour ça que c'est le premier, il a comme ouvert la voie de la résurrection, et nous maintenant à sa suite, nous avons cette assurance que nous ressusciterons et que nous serons avec lui. Le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui est au-dessus de tous les rois de la terre. Et là, il y a cette phrase qui est formidable et on voit ici tout l'amour et la compréhension que Jean peut avoir de ce que Dieu a accompli en disant à celui qui nous aime. On sait que Jean parle énormément de l'amour de Dieu, aussi bien dans l'Évangile, c'est Jean qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il sait que Dieu nous aime. C'est Jean qui nous dit dans ses épîtres que Dieu, si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean est même ce disciple qui avait la réputation d'être connu sous l'intitulé « Le disciple que Jésus aimait ». Et si Jean écrit de la sorte en ce qui le concerne, c'est parce qu'il sait qu'il est aimé de Dieu. Il le sait, non pas d'une manière intellectuelle, mais au plus profond de lui-même, il sait que Dieu l'aime. Et ça, c'était pas dans la révélation à Patmos, il le savait avant déjà, mais c'est la base de sa relation avec Dieu, c'est avant tout une relation d'amour. Et quand on a ce premier élément sur la base de toute relation avec notre Dieu, la vision de la révélation qui va être donnée va être différente. Parce que quand Dieu lève le voile sur les choses à venir, Jean part du principe et part avec cette première base, celui qui nous aime. Il ne part pas avec l'idée que Dieu est un Dieu qui ne nous aime pas, qui veut notre mal. Mais il part dès le départ avec cette image, il est celui qui nous aime. Il m'aime, il veut notre bien, il veut notre bonheur. Et la révélation ici qu'il va avoir est interprétée et doit être interprétée au travers de l'amour de Dieu. Dieu est tout au long de l'Apocalypse celui qui nous aime. Certains auraient tendance à dire, Dieu ne nous aime pas pour qu'il arrive telle et telle chose. Au contraire, Dieu nous aime parce qu'il nous sauve de telle ou telle chose. Et il ne nous permet pas que nous soyons dans la tourmente, mais celui qui revient chercher son Église est celui qui nous a préparé une place dans son ciel. Il y a les noces de l'agneau qui sont là, il y a un règne avec lui durant 1000 ans, il y a toutes ces sortes de choses qui sont là dans l'Apocalypse, et on voit avant tout, et Jean pour lui, c'est avant toute chose, c'est ça, c'est Dieu qui nous aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et ça c'est un point qui est la base de tout le message, et Jean en est très conscient. Et on va retrouver cette image-là tout au long de l'Apocalypse, quand il est question de l'agneau de Dieu. Dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est celui qui a été la victime, qui a versé son sang. Et pourquoi son sang a été versé? Pour que nous soyons délivrés de nos péchés. Et on comprend que la même manière qu'il est celui qui est, qui était et qui vient, que le message de l'Apocalypse, même si c'est un message qui concerne les choses à venir, c'est donc les choses qui viennent, hein, les choses à venir, on est dans qui vient, mais le message est aussi dans ce qu'il est et dans ce qu'il était. Ce n'est pas un message qui est déconnecté en disant les choses à venir n'ont rien à voir avec le passé ou n'ont rien à voir avec le présent. Mais il y a une connexion entre ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Et cette connexion, on la trouve ici. Il nous a délivrés. Il nous aime, ça c'est le présent. Il nous a délivrés, ça c'est le passé. Et puis, on fait référence tout au long de l'Apocalypse des choses à venir. Donc, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Un royaume, certaines traductions ont, parce qu'ici, dépendamment de comment on lit le grec ici, il a fait de nous un royaume, ou certains vont même dire, il a fait de nous des rois. Hein, dans la version anglaise, ça va être plutôt, il a fait de nous des rois ici. On est un royaume, on fait partie du royaume et on a un rôle dans la gouvernance du royaume. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et évidemment, quand on parle de roi et de sacrificateur, on pense à Jésus. Jésus lui-même, qui était quelque part l'exemple de cette double fonction de roi et de sacrificateur, qui était impossible avant Jésus. Avant Jésus, ce n'est pas compliqué, les rois c'était de la descendance de David, et les sacrificateurs devaient être des Lévites, et même de la descendance d'Aaron. Donc on ne pouvait pas être à la fois un roi et un sacrificateur. Mais Jésus, lui, a été à la fois roi de la descendance de David. Alors vous allez dire, oui, mais s'il est de la descendance de David, il ne peut donc pas être sacrificateur de la descendance d'Aaron. En effet, vous avez raison, Jésus n'est pas sacrificateur de la descendance d'Aaron. Il faut aller dans le livre aux Hébreux pour comprendre qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'est pas la même sacrificature que celle d'Aaron, et qu'il est sacrificateur et roi, les deux en même temps, et que ce qu'il est lui, il nous invite à être comme lui, et pour que nous soyons comme lui, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes appelés à régner, Nous sommes appelés à avoir une part dans ce royaume de Dieu et nous sommes appelés aussi à être son service et à faire apporter vers lui toutes sortes de sacrifices, de louanges, d'actions de grâce. Nous sommes appelés à être roi et sacrificateur pour Dieu, son Père. Et il conclut avec cette louange. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on voit que dès le départ, eh bien, Jean nous donne le ton. Dès le départ, il ne dit pas « Hey, j'ai des choses difficiles à vous raconter ». Dès le départ, il ne dit pas « Hey, j'ai vu des choses, le voile a été levé, il y a des choses terribles qui arrivent ». Dès le départ, il dit « À lui soit la gloire ». J'ai vu des choses glorieuses, des choses formidables, de gloire, de puissance au siècle des siècles. Et vous savez, c'est dans tous les livres, et on a souvent ça dans les épîtres aussi, dès les premières lignes de l'épître, on annonce la fin. Hein? C'est comme si on dit « voilà là où on va ». Et là, on annonce la fin dès le départ, au verset 7, où il dit « voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Et Jean ici fait référence dès le début en disant « l'Apocalypse annonce les choses à venir et dans les choses à venir, la plus importante, c'est le retour de Jésus. Voici, il vient. » Et ceux qui l'ont percé, ceux qui ont cette responsabilité, vous comprenez qu'on est tous en tant qu'humanité, on ne va pas dire « oh mais ça c'est les Juifs, nous on n'était pas là ». Pensez donc que si on avait été là, on aurait été pareil qu'eux. Hein. Et je suis sûr qu'on aurait été dans la foule qui aurait crié « crucifie-le ». Et on ne jette pas la première pierre ici sur ce peuple. On est solidaire dans le sens responsable de ce qui s'est passé à la croix. Et on fait partie de ceux qui l'ont percé. Parce que c'est pour vous qu'il est mort. Et quand on réalise qu'il est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, on réalise que s'il a été percé, c'est pour nous. Ou on pourrait le dire autrement, que s'il a été percé, c'est à cause de nous. Que d'une certaine manière, nous sommes responsables dans sa mort à la croix. Si nous n'avions pas été pécheurs, on n'aurait aucune part dans sa mort à la croix. Mais parce que nous étions pécheurs, et qu'il est mort pour les pécheurs, et qu'il est mort pour nous, nous avons notre part de responsabilité. Nous faisons partie de ceux qui l'ont percé, de toute tribu, qui vont avoir un temps de lamentation quand ils vont réaliser ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est important de faire partie de ceux qui font, dont il a fait un royaume et des sacrificateurs avant son retour. Et on comprend qu'ici, il y a déjà un avertissement qui est donné en disant « attention, il vient ». Et il faut être prêt pour le jour où il revient. Verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. » Et si vous avez fait du grec, vous savez à quoi correspondent l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, et l'oméga, c'est la dernière lettre. Donc ça veut dire que je suis le commencement, la fin. L'alpha et l'oméga, c'est ça ici, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et on comprend ici que, alors qu'on parle du retour de Jésus, alors qu'on parle de la venue de celui qu'ils ont percé, on fait référence aussi au Tout-Puissant. C'est clair que Jésus est le Tout-Puissant. On ne dit pas, oui, d'un côté il y a Jésus, de l'autre côté il y a Dieu le Père. Jésus est Dieu ici dans le texte. Et il a les mêmes caractéristiques que Dieu. Il est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et on voit que en Jésus, eh bien, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est une révélation complète de la personne de Dieu ici qui a lieu tout au long de l'Apocalypse. Alors, cette introduction ayant été faite, Jean rentre un peu plus dans des détails personnels ici dans cette épître, puisqu'il dit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Il dit, J'étais donc dans cette île à cause de. On comprend que c'est ici un, pas quelque chose qu'il a choisi, mais c'est quelque chose qui lui a été imposé et qu'il y a ici donc une persécution à cause de la parole. Il se trouve dans cette île-là. Mais notez bien que Jean dit, on aura l'occasion d'y revenir plus tard, que Jean dit, moi, votre frère, j'ai part avec vous à la tribulation. Jean ne parle pas de la tribulation à venir, mais Jean ici parle clairement de la tribulation qui est déjà là. Jean vit à une époque de tribulation, de martyr, de souffrance. Et l'Apocalypse et la révélation de Jean ici, c'est pas voilà la tribulation et les mauvaises choses qui vont arriver, elles sont déjà là. C'est les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui viennent. C'est pas seulement les choses à venir, mais c'est le passé, le présent et l'avenir. Et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en conscience, que les premiers lecteurs de l'Apocalypse, les premiers récepteurs de ces lettres aux églises et puis de l'Apocalypse en général, quand ils lisent l'Apocalypse, ils ne disent pas ouf, on est en l'an 100, on a le temps, hein. Ce n'est pas la peine de lire l'Apocalypse maintenant, en 2015, ils seront toujours en train de la lire. Ils ne se disent pas en l'an 100, les choses à venir, c'est loin. En l'an 100, quand ils lisent l'Apocalypse, ils disent, c'est exactement pour nous. On est exactement dans ce temps-là. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on a tendance à dire, c'est pour plus tard. Ou alors à dire, hé, on est dedans là. Ça a commencé. Ça a déjà commencé l'Apocalypse. Les choses ici dont il est question, là, on le voit autour de nous. Ça a commencé. Mais, laissez-moi vous dire qu'il y a 2000 ans, enfin un peu moins de 2000 ans, pour eux, ça avait commencé certains. Hein. Ils étaient évidents d'être, c'était évident pour eux qu'ils étaient déjà dans cette tribulation. Et Jean le verbalise ici en disant, j'ai part avec vous à la tribulation. La tribulation n'est pas quelque chose qui s'en vient, elle est déjà là. Et aujourd'hui, la tribulation n'est pas quelque chose qui s'en vient, elle est déjà là. On en a parlé dimanche passé en ce qui concerne l'Église persécutée. Peut-être que la tribulation est moins visible au Québec, mais il y a certains pays dans le monde où c'est très clair qu'on est dans un temps de tribulation. Lorsque au Nigeria, on met des bombes dans les écoles chrétiennes, la tribulation est là. Lorsqu'on brûle les églises, lorsqu'on emprisonne les pasteurs, lorsqu'on met à mort ceux qui se convertissent en Corée du Nord, ou lorsqu'on rejette ceux qui se convertissent dans des pays du Moyen-Orient, la tribulation est déjà là. Jean dit, j'ai eu part, moi j'ai part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans cette île donc de Patmos, et il dit au verset 10, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il dit donc qu'il a été saisi par l'Esprit. L'Esprit l'a visité. Certains vont même considérer que ça pourrait être presque littéral ici, dans le sens qu'il a été pris par l'Esprit, un petit peu, vous savez, comme Philippe qui a été pris par l'Esprit et amené d'un coin à un autre endroit. Hein, on lit ça quand il se retrouve avec l'eunuque éthiopien. Et puis après, hein, il a été comme transporté par l'Esprit. Est-ce qu'ici, il s'agit d'être saisi comme un transport physique, peut-être? Est-ce qu'il s'agit d'être saisi dans le sens « ça m'a saisi, ça m'a touché » Peut-être aussi. Qu'importe, les deux, de toute façon, voudraient dire la même chose pour nous aujourd'hui. Il a été saisi au jour du Seigneur. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé un dimanche, le jour où l'Esprit l'a touché. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là, le jour du Seigneur. Hein. Dominus en latin, qui a donné dimanche ici. Ce n'est pas ce jour du Seigneur dans une question ici. Le jour du Seigneur, c'est le jour où, quand il est question du jour du Seigneur, dans les prophéties d'Ésaïe, les prophéties d'Ézéchiel, ça fait souvent référence au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est le jour où la colère de Dieu s'abat sur l'humanité, c'est le jour où Dieu intervient en faveur de son peuple, c'est un jour, ça représente en fait ce temps où eh bien, les choses de la fin arrivent, et c'est dans ce sens-là qu'il a été saisi au jour du Seigneur, qui fait donc une connexion avec toutes les prophéties qui avaient déjà été données par les prophètes de l'Ancien Testament concernant ce fameux jour du Seigneur. Un petit peu comme quand Joël dit « en ces jours-là », on fait référence à un temps particulier. Alors dans l'Ancien Testament, ce temps concernait eh bien, la venue du Messie, et on comprend que la venue du Messie est déjà réalisé pour nous. La venue de l'Esprit, on comprend que l'Esprit est déjà venu le jour de la Pentecôte et qu'il y a encore eh bien, une autre période, un autre moment à arriver, à savoir eh bien, l'enlèvement de l'Église et des temps que le Seigneur a déjà annoncés qui doivent s'accomplir. Donc, ce jour du Seigneur, c'est qu'il a été comme amené dans ce temps-là et dans cette période-là, afin de voir, d'avoir cette révélation, d'avoir ce voile qui est ôté, et de pouvoir les rapporter dans ce livre-là. Il dit « J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette ». Donc on comprend que c'est une image ici, le son d'une trompette. Il dit une trompette. Vous avez déjà eu une trompette dans l'oreille ? Ça fait du bruit une trompette, hein ? Je vous avais dit que j'ai joué de la trompette ? Ma femme dira, tu as joué de la trompette 6 mois dans une fanfare, arrête avec ça. C'est vrai, mais j'ai joué de la trompette 6 mois dans une fanfare. Ça fait du bruit une trompette, ça, surtout si c'est à côté de votre oreille. Et Jean, lui, a été saisi tellement ça fait du bruit. Il dit, waouh, une voix qui dit aussi fort que le son d'une trompette, ce que tu vois. Vous avez entendu la trompette? Non? Ça fait ça pour Jean. Il dit, waouh, ça fait du bruit là. Tout d'un coup, il entend. J'ai l'impression que j'en ai réveillé quelques-uns. Là. C'est la trompette qui réveille les morts. Et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, il y a une révélation. Il voit, le voile est levé, il voit des choses. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le à 7 églises qui sont à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors j'ai déjà fait en 2005, 2006, je ne sais plus, c'est 2005, une série sur les 7 églises de l'Apocalypse. Alors c'est toujours sur le site internet de l'église pour ceux qui veulent aller réécouter ça, mais en ce qui concerne ces 7 églises, je sais qu'il y a plusieurs interprétations et que certains vont parler de cette époque ou cette période. C'est une façon de voir les choses, mais clairement, à l'époque de Jean, quand il écrit à 7 églises, ce n'est pas des noms qui n'existent pas, hein, c'est des noms qui existent. Et même quelqu'un s'est amusé à tracer des lignes entre Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, et se rendre compte qu'elles ne sont pas dans un ordre bizarre, mais elles sont exactement dans l'ordre du postier. S'il y avait quelqu'un qui devait aller poster ces lettres-là, il fait une boucle pour aller faire ces 7 églises-là, et il serait dans cet ordre-là. Ce n'est pas un ordre illogique. Et on comprend qu'il y a quelque chose de cohérent, et qu'au départ, premièrement, le sens premier ici, c'est vraiment 7 églises à l'époque de Jean. Et que Jean écrit à ces 7 églises qui sont en Asie mineure, mais qu'au travers de ces 7 églises qui existent à cette époque-là, il y a un message pour nous aujourd'hui aussi. De la même manière que quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, Rome existait à l'époque où l'apôtre Paul écrit, c'était à des vrais Romains qui habitaient une ville qui s'appelait Rome. Vous allez, mais ça ne nous concerne pas. Alors si, même si l'apôtre Paul écrivait à une ville qui était connue, et c'était les Romains par exemple, ou les Éphésiens, eh bien, ce message-là, qui était pour eux au départ, a aussi quelque chose à nous dire à nous. Et de la même manière, ces lettres-là qui sont envoyées à ces 7 églises, a aussi quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui. Alors, cette église à qui sont destinées ces lettres-là. Et il dit au verset 12, « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Alors au début, la vision est quand même assez simple ici. Il voit sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et comprenez que l'expression ici « fils d'homme », ça nous rappelle un petit peu ce que Luc disait quand il parlait du fils de l'homme. Ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé dans la fournaise ardente, lorsqu'il y a eu, avec Shédrach, Meshach et Abednego, un quatrième individu qui était là, qui était semblable à un fils d'homme aussi. Et donc, on comprend clairement ici qu'il s'agit de Jésus. Il était semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ça on sait ce que c'est au Québec, hein. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et on comprend au travers de cette image-là, déjà la neige et le feu, ce n'est pas fait pour cohabiter ensemble, mais on comprend qu'il y a quelque chose de spécial dans cette description, et que ce qu'il voit n'est pas quelque chose de naturel. Avoir des yeux comme une flamme de feu, je ne sais pas comment on serait capable d'imaginer ça, mais on comprend qu'il y avait un regard ici qui était différent et que ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose ici. On se souvient que sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean avaient vu le Seigneur transfiguré et il y avait une telle blancheur au niveau de ses habits que ça les éblouissait. Et là, on a à peu près ce même analogie où on a du blanc qui est immaculé, qui est pur. La laine ici représente, la neige ici, représente ce blanc qui est voire éblouissant, je ne sais pas, quand il neige, puis qu'il y a du soleil après sur la neige, là c'est fort, il faut des lunettes de glacier hein, quasiment. Eh bien, ici, donc on voit qu'il y a une révélation qui est en dehors de ce qui est terrestre et humain. Et dès le départ, on comprend que dans ce que l'apôtre Jean voit, ce n'est pas quelque chose que de l'ordinaire, mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, à du bronze, de l'airain ardent ici, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc on comprend ici, au travers de cette image, qu'il y a quelque chose de grand, de spectaculaire, d'extraordinaire qui se passe, et qu'il s'agit de Jésus. On pourrait rentrer peut-être dans le détail de chaque élément, mais là encore, je veux être prudent, parce que c'est toujours dangereux que de vouloir donner un sens à chaque élément, disant les flammes de feu, ça voudrait dire ça. Le texte ne le dit pas. Et ce serait juste une interprétation, ou de dire que c'est les pieds semblables à de l'airain ardent, ça voudrait représenter ça, parce que les pieds, ça représente la marche. Peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant dans ce genre d'analogie, mais ce n'est certainement pas ce que le texte nous dit. C'est ce à quoi on peut penser en lisant le texte. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention lorsqu'on lit l'Apocalypse, à faire la différence entre ce que l'image que nous voyons, à quoi ça peut nous faire penser, à l'impression que ça peut avoir sur nous, et ce que ça dit réellement. Et ici, qu'est-ce que disent ces choses? Quelqu'un pourrait dire qu'il avait les cheveux blancs, ça veut dire qu'il avait pas mal vieilli. Hein? Non? Ça ne veut pas dire ça? Comprenez que il faut faire attention à ce qu'on fait dire au texte, parce qu'on serait tenté de faire dire des choses, et des fois on peut trouver quelque chose de logique, de cohérent, mais qui n'a rien à voir avec ce qui a été écrit. Et il faut évidemment, quand on est face à un texte comme celui-ci, faire preuve de grande humilité, puis on va voir quand on va arriver dans des passages plus complexes, eh bien, savoir où sont les limites et ne pas faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Mais ici, ça nous dit simplement qu'on est dans un contexte qui sort de l'ordinaire, on n'est pas dans des repères humains, mais on est vraiment ici dans quelque chose de surnaturel, et donc on comprend céleste, divin. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Pour ceux qui sont allés à Niagara, ils savent le bruit que ça peut faire. Ça fait du bruit. Donc il y avait une voix qui était forte, puissante, qui amenait donc une certaine autorité dans le timbre de sa voix. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors là encore, on pourrait s'amuser à faire des dessins et de dire, mais quand même, une épée qui sort de sa bouche. Et on comprend ici que il ne faut pas rester dans le sens littéral en disant, bon, ben, ça peut être pratique d'avoir une épée qui sort de ta bouche. Vous imaginez, pour conduire, ça va dans le pare-brise, ou qu'est-ce qu'on fait avec une épée qui sort de sa bouche? Il y a ta femme qui t'appelle, tu te retournes, tu lui coupes la tête. Je veux dire, comprenez que si on commence à faire ce genre d'image-là, on va dire des choses stupides. Donc, une épée qui sort de sa bouche, on comprend que c'est symbolique ici, d'autant plus quand on a lu, par exemple, l'Épître aux Hébreux, où il est question de la parole qui est comme une épée à double tranchant, et puis c'est logique que cette parole sorte de la bouche, hein, une parole, ça sort de la bouche, et que donc ce qui sort de sa bouche, c'est une parole qui est comme une épée aiguisée, et on comprend qu'il va y avoir tout au long de ce livre-là des comme, des similitudes, mais qui ne sont pas... Il ne faut pas imaginer quelqu'un qui a une épée qui sort de la bouche, mais plutôt quelqu'un qui a une parole qui est aiguisée, qui est tranchée, une parole qui est efficace comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Et je cite ici le texte aux Hébreux. Et donc cette épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme... Et là, ça nous aide quand Jean nous dit « était comme ». On comprend que son visage, ce n'était pas le soleil, mais c'était comme... était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et ça, ça nous rappelle la transfiguration. On comprend qu'il y a un visage éblouissant. Et on comprend, si vous avez déjà été ébloui, si on vous mettait un projecteur dans les yeux ici, et qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce projecteur-là, vous voyez une image aussi forte que le soleil, vous comprenez que ses cheveux peuvent paraître blancs, et qu'on ne voit plus trop la couleur de ses cheveux, tellement on est ébloui par le visage qui est là comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et ce qui est important maintenant, c'est la réaction. Jean, quand il le voit, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Et on voit que Jean ici réalise et qu'il est en face de beaucoup plus grand que lui, et ça amène à réaliser sa petitesse, son insignifiance, et il tombe à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite, dit Jean, en disant, ne crains point. Et c'est une parole que Jésus a dit souvent. On se souvient que Jésus a dit, par exemple, à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Et ici, il dit, ne crains point. Je ne suis pas là pour ton mal, mais pour ton bien. Et c'est quelque part aussi un message qui, on est dans l'introduction de l'Apocalypse, c'est quelque part un message qui nous est adressé à nous, lecteurs de l'Apocalypse, pas seulement à Jean. Que quand on est là devant la grandeur du message, ou devant cette épée à 2 tranchants, et en disant « waouh », et qu'on peut être là comme terrorisé, eh bien Jésus nous dit lui-même au travers de ce texte, n'aie pas peur quand tu lis l'Apocalypse. Parce que heureux est celui qui lit ce texte, qui le comprend. Et le but de ce texte n'est pas de nous faire peur. Il dit, n'aie pas peur, ne crains point. Mais que ce texte, au contraire, eh bien, nous encourage, nous fortifie et nous fasse du bien. Il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il y avait l'alpha et l'oméga tout à l'heure, là c'est la même chose. Le premier et le dernier est le vivant. Comprenez, ressuscité. Il est plus mort, il est ressuscité. Il le dit d'ailleurs, voici j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, vivant pour toujours. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors évidemment, ce genre de phrase, nous, des fois, et puis c'est un petit peu l'erreur que l'on fait quand on lit l'Apocalypse, c'est que on se prend les pieds dans les fleurs du tapis, et c'est comme si on oubliait tout ce qui est en train de se passer, et puis on dit, c'est quoi ces clés? Les clés du séjour, de la mort et du séjour des morts. Et quelqu'un dira, mais c'est pas Saint-Pierre qui a les clés? Non? Vous comprenez que des fois on peut dire, mais c'est quoi ces clés? Ça vient d'où ces clés? Alors il faut faire attention à ne pas, prendre les pieds dans les détails, mais ici, c'est Jésus qui dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. On comprend qu'il a vaincu le séjour des morts. Il est ressuscité. Il le dit, j'étais mort et je suis vivant. En d'autres termes, la mort n'a pas pu le garder prisonnier. Il était là comme mis au tombeau et on a même roulé la pierre devant et on ne voulait pas qu'il sorte, mais il avait la clé pour sortir. Et la clé, il ne faut pas forcément aller chercher ici une clé physique, là, mais la clé, c'est le moyen de débarrer et de sortir. Et il a le moyen de nous faire échapper à la mort et au séjour des morts. Parce qu'il est le premier-né, le ressuscité, le vivant, et qu'il est celui qui a la clé pour nous. Eh bien, de ne pas être emprisonné par la mort et dans le séjour des morts, mais d'être ressuscité avec lui. C'est ça la bonne nouvelle qui est là dans ce passage-là. Verset 19, voilà ce que Jésus dit à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et qui doit arriver. » Ce que tu as vu, c'est du passé, ce qui est, c'est du présent, et ce qui doit arriver, on a toujours ce mode-là qui revient assez souvent dans l'Apocalypse. Il dit, et ce qui doit arriver ensuite, verset 20, « Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. » Alors, il a vu donc celui qui était comme le Fils d'un homme avec sept étoiles dans sa main droite qui marchent au milieu de sept chandeliers, et on a quelques détails maintenant. Il dit, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Et là encore, c'est un verset qui fait couler beaucoup d'encre en disant, c'est qui les anges des églises? Que les chandeliers soient les sept églises, on arrive à le comprendre assez facilement. Vous savez ce que c'est qu'un chandelier? Donc un chandelier, c'est un support sur lequel il y a une lumière, hein, une chandelle, chandelier, chandelle, on va garder ce mot-là pour l'analogie. Et ce n'est pas juste un support, mais il y a la lumière. Et donc l'Église est appelée à être la lumière du monde et briller de cette lumière et de cette flamme qui donc représente eh bien, le message de la bonne nouvelle. Et donc, les sept églises sont matérialisées, sont imagées, sont représentées par sept chandeliers. Et là encore, la bonne nouvelle, c'est que Jésus marche au milieu de ces sept chandeliers. L'Église ici, les sept églises qui sont représentées, eh bien, on va dire, oui, mais ça ne nous concerne pas, c'est en Asie, il n'y a pas de Romanville dans la liste. Ces sept églises correspondent à sept églises qui ont existé en Asie, certes, mais aujourd'hui, nous, on peut se sentir inclus à l'intérieur de cette liste-là. Et de la même manière que Jésus marche au milieu de ces sept églises, de ces sept chandeliers, eh bien, il marche avec nous. Il est au milieu de nous. C'est une promesse qu'il a faite avant de remonter au ciel, on en a parlé ce matin, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Même une connexion avec la fin du monde ici. Alors, le fait que les sept chandeliers soient sept églises, c'est pas compliqué. Là où ça se complique un peu plus, c'est ces étoiles. Il y a sept étoiles. Déjà, notons que ces sept étoiles sont dans sa main. C'est pas des étoiles filantes, c'est des étoiles qui sont dans sa main, dans le creux de la main du Seigneur. Et dans la main, on sait que ça veut dire beaucoup de choses dans le contexte biblique. Quand on est dans le creux de sa main, ça veut dire qu'on est en sécurité, ça veut dire qu'on est protégé, ça veut dire que c'est lui qui nous tient, qui nous soutient et qui nous dirige et qui nous conduit. Donc, ces sept étoiles sont dans sa main droite. Et il est dit, ces sept étoiles sont les anges des sept églises. Alors, c'est qui? Les anges de cette église. Et là encore, il y a toutes sortes d'idées. Et certains vont dire, c'est les pasteurs. Tout le monde sait que les pasteurs sont comme des anges. Non? Ange, en grec, angelos, ça veut dire tout simplement messager. Le pasteur est celui qui donne le message de Dieu. Dans ce sens-là, c'est un ange. Ce n'est pas dans le même sens quand ma femme me dit mon ange, mais elle ne me le dit pas souvent. Hein, mais messager ici, c'est celui qui apporte le message, et dans le sens, donc, on pourrait remplacer des fois dans notre Bible, en français, on a le mot angelos, mais nous, en français, on a messager. Alors, des fois, le traducteur a mis ange, des fois, il a mis messager. Bon, ici, là, on a ange, mais c'est ange dans le sens messager. Donc, certains peuvent dire, ben, peut-être que ces sept étoiles sont les sept dirigeants, puisque il va y avoir ensuite eh bien, une épître qui va être envoyée à chacune de ces églises au travers de ces sept étoiles. Donc, c'est comme si le message était envoyé à l'église au travers de cette étoile-là. Et ça pourrait être le pasteur, le leader, le responsable de cette église. D'autres vont dire, mais non, mais peut-être que le messager ici, c'est peut-être celui qui porte la lettre et celui qui amène la lettre à l'église en question. Dans ce sens-là, c'est vraiment un messager. Il est dans la main parce que le Seigneur veille sur sa parole et il envoie ce message-là à chacune de ses églises. Et pourquoi ce serait une étoile? Ça nous rappelle un petit peu l'étoile qu'on pouvait avoir dans l'évangile selon Matthieu. Quand Jésus est né, il y a une étoile qui a guidé, qui a dirigé. Dans ce sens-là, c'est une étoile qui dirige, qui conduit et qui amène l'église eh bien, dans la direction et dans le message qu'il doit recevoir. Mais franchement, qu'on aille pour une ou l'autre interprétation concernant qui est l'ange, qu'est-ce que ça signifie l'ange ici, ça ne change pas grand-chose à la compréhension de l'Apocalypse. Si vous voulez mettre le pasteur, mettez le pasteur. Si vous voulez mettre celui qui envoie le message, celui qui transporte le message, mettez celui qui transporte le message. Le résultat est le même. C'est Jésus qui écrit à chacune de ces sept églises. Et à partir du chapitre 2, eh bien, on a le message qui est envoyé à chacune de ces sept églises. Mais on ira dans le chapitre 2 la semaine prochaine. Alors, on reste juste au chapitre 1. Ça ne vous gêne pas, là, parce qu'il est, le temps passe vite, hein, déjà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vu dans ce chapitre 1? Dans ce chapitre 1, et ce n'est pas anodin, le premier chapitre d'un livre. Surtout d'un livre biblique. Hein. Ça ne commence jamais n'importe comment, un livre biblique. Quand dans, par exemple, l'épître de Paul aux Romains, il est dit au chapitre 1er, versets 17 et 18, « J'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. » C'est pas par hasard que c'est là au chapitre 1er. Parce que ça annonce des choses qui vont être développées tout au long de l'Épître. Quand dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas par hasard que c'est là au début du livre, parce que c'est quelque chose qu'on va voir se réaliser dans le livre tout entier. Et là, le chapitre 1er de l'Apocalypse, c'est quasiment le plus important. Parce que c'est lui qui nous donne la clé de lecture, si je peux dire les choses ainsi. C'est lui qui nous dit comment il faut lire l'Apocalypse. Et comment est-ce qu'il faut lire l'Apocalypse? En réalisant que c'est la révélation de Jésus. Et on va dire qui Jésus? Jésus, c'est celui qui était mort, mais qui est vivant, au siècle des siècles. Celui qui est dans cette vision glorieuse, avec le visage qui brille comme un soleil, et puis qui est là avec une épée, une parole aiguë et tranchante, c'est de ce Jésus-là dont il est question. À cause de l'amour de celui qui nous a aimés, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et dès le départ, on pose les bases ici, et je rappelle, parce que pour moi c'est comme une clé qui est capitale, que le but de ce livre est de nous amener à être heureux. Heureux celui qui lit. Et quand on part avec ces choses-là et qu'on comprend bien le chapitre premier, ça va influencer tout le reste de notre lecture. Et on ne va pas chercher les choses qui vont amener à nous décourager et à détruire, mais comprendre que ce livre a pour but de construire, d'encourager, de fortifier, de faire du bien. Et on aura l'occasion, donc, à partir de la semaine prochaine, eh bien, on fera les... Je vais passer assez vite sur les lettres aux sept églises. Si vous voulez aller plus en détail, bien, vous pourrez réécouter les prédications qui ont été données. C'est toujours sur notre site internet. Et puis après, on rentrera eh bien, dans des choses qui sont peut-être plus mystérieuses une fois qu'on a fini les sept répites, puisque on sera au chapitre 4 dans cette vision du trône de Dieu. Puis là encore, ce n'est pas pour rien que ça commence avec la gloire de Dieu. Avant de parler des coupes, de la colère, avant de parler des fléaux, avant de parler de toutes ces choses qui pourraient faire peur et puis de dire, ouais, c'est ça l'Apocalypse. Il ne faut pas oublier que ça parle de la gloire. Et si après avoir développé les sept épîtres aux sept églises, le chapitre 4 nous parle du trône de Dieu, ça nous rappelle un petit peu l'introduction. Jean commence par nous dire, c'est glorieux. C'est formidable, c'est grand, c'est grandiose, c'est merveilleux. Et c'est ça l'impression que doit déjà nous donner l'Apocalypse avant d'être là dans la terreur et l'angoisse. C'est un livre qui nous amène la paix et qui nous donne l'assurance qu'il est avec nous et que tout se passera bien si nous restons avec lui. Amen. On va prier ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et nous voulons que ta parole encore eh bien, touche nos cœurs, transforme nos cœurs, change nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, lire n'importe comment la Bible, mais la lire avec sérieux. Et nous voulons, lorsque nous lisons l'Apocalypse, eh bien, pouvoir dire « parle à nos cœurs ». Alors que envoyer sept épîtres à cette église, dire « qu'est-ce que tu veux nous dire à nous aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes ?» Seigneur, nous prions que ce soit ton esprit qui nous révèle ces choses, que nous comprenions ce que toi, tu veux nous dire. Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang, parce que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous voulons dire à lui soit la gloire au siècle des siècles. Nous voulons, avec Jean, eh bien, nous prosterner devant toi et te glorifier et te dire merci de nous donner le privilège de voir ces choses, de pouvoir lever le voile et de voir la grandeur, la splendeur, la magnificence, la gloire de ton nom. Tu ne nous as pas laissé ces choses cachées, mais tu nous amènes à les voir afin que nous réalisions, que nous comprenions encore quelle est la grandeur de ton nom. À toi soit toute la gloire, au siècle des siècles encore. Amen. Alléluia.